de ce que je faisais régulièrement à l'hôpital. On va donc parler des nouvelles techniques diagnostiques endoscopiques. Je vous passe rapidement mes liens d'intérêt. Et on va d'abord s'intéresser à les bus. Je vais enfoncer un peu des portes ouvertes. Les bus, vous savez que ça marche très très bien en termes de diagnostic. Un diagnostic à la fois en termes de rentabilité sur le diagnostic du cancer, sur son staging. C'est intéressant aussi sur la sarcoïdose, la tuberculose. Par contre, on a une rentabilité sur le lymphome qui est beaucoup moins importante. Et ça va nous poser la question de savoir si ça reste une indication qu'il faut garder pour l'échoendoscopie ou est-ce qu'il faut retourner à la médiastinoscopie. Alors, il y a quelques pistes de travail qui sont intéressantes. C'est la cryobiopsie. Alors, la cryobiopsie médiastinale, on en entend parler, il y a plein de films qui découlent et qui déboulent dans les congrès. Ça, c'est une méta-analyse toute récente qui a comme particularité d'évaluer la cryobiopsie versus la ponction à l'aiguille traditionnelle transbronchique. Mais c'est évidemment poulé, c'est-à-dire qu'on va avoir du cancer bronchopulmonaire, des métastases extrathoraciques, des lésions bénignes et du lymphome. Et en fait, même sur l'ensemble de ces données-là, on a quand même un bénéfice, semble-t-il, à la cryobiopsie en termes de rentabilité diagnostique. Si on s'intéresse en poulant sur l'ensemble de ces données plutôt à ce qui se passe sur le lymphome, on arrive à mettre en évidence que sur le lymphome, sur simplement 22 diagnostics ou 22 lymphomes identifiés à distance, on a une rentabilité extrêmement intéressante de la cryobiopsie avec 86% de rentabilité versus simplement 30% dans ces données-là. Alors, c'est des données qui sont plus ou moins anciennes, mais ça reste quand même intéressant. On a un intérêt qui est pareil, identique en faveur de la cryobiopsie pour les lésions bénignes et on se rapproche des données qu'on avait préalablement connues sur la sarcoïdose ou la tuberculose. Aucune différence, par contre, en termes d'intérêt pour le diagnostic de cancer bronchopulmonaire. Pardon. Si on prend cette méta-analyse, cette étude, celle-ci, c'est une étude randomisée contrôlée qui va évaluer deux choses. D'un côté, la ponction à l'aiguille traditionnelle versus de l'autre côté, l'association d'abord de la ponction à l'aiguille, puis de la cryobiopsie. Et en fait, on se rend compte que le bénéfice, il est en faveur de l'association avec une rentabilité diagnostique quasiment de 93%, que ça se fait essentiellement aux dépens des lésions bénignes et on ne voit aucune différence entre ici les autres tumeurs, notamment le lymphome, mais avec une population de lymphome qui n'est simplement que de 10 patients. Donc ça semble un peu faible pour pouvoir faire une différence entre les deux. Et puis évidemment, en termes de durée de procédure, on est sur une procédure qui est plus longue quand on combine les deux techniques. Alors comment ça marche ? Quand on fait une cryobiopsie, il va falloir passer la paroi. Et pour passer la paroi, il y a plusieurs possibilités. Soit on utilise un petit bistouri, en pratique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Soit en fonction du type d'échoendoscope qu'on a, on aura soit d'un côté les aiguilles trident qui vont permettre de perforer la paroi. Et puis après, on vient pousser avec la gaine à travers la paroi en laissant toujours l'aiguille trident à l'intérieur. Ça laisse la place suffisante pour pouvoir glisser ensuite la cryode à l'intérieur de du trou. L'autre possibilité, si on est avec un autre échoendoscope, c'est d'utiliser des aiguilles plus larges, des 19 gauges. Et ces aiguilles 19 gauges laissent un trou suffisant pour pouvoir ensuite passer la cryode. Donc, quatre étapes. D'abord, le choix de l'adénopathie. Il faut qu'elle soit suffisamment grosse. Il faut qu'elle soit assez proche de la paroi. Et il faut évaluer attentivement la vascularisation pour éviter évidemment le saignement. Dans un second temps, donc, c'est la ponction dont on a parlé, puis la tunnelisation et ensuite la cryobiopsie. Je vous remonte juste quelques images supplémentaires avec en haut, faire attention au vaisseau. Hop, pardon, oulala, dans tous les sens. Pardon. Hop. Voilà le vaisseau. Et puis ensuite, essayer de trouver la paroi la plus fine. On s'attache à faire un orifice dans la paroi bronchique suffisamment importante pour pouvoir le retrouver. Et puis en fait, quand on va faire les cryobiopsies, on va les faire en trois temps. On recommande plutôt trois cryobiopsies, une en distalité, une à peu près au milieu de l'adénopathie et une proche de l'entrée du point de ponction. Là, c'est à peu près le même genre de technique, mais où on voit un peu mieux sur les images la pénétration de l'aiguille et de la gaine dans la muqueuse. Et vous voyez que sur la cryobiopsie, ben, on a quand même des prélèvements qui sont de l'ordre de quelques millimètres, ce qui est quand même assez intéressant. Alors, hop, pardon, désolé, un peu de manip, si ça marche. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche, formidable. Donc, du coup, là, on est sur une adénopathie sous-carénaire. On a déjà fait le trou préalablement et on cherche le trou avec la cryode. On va finir par le trouver. Sinon, je ne vous aurais pas mis ce film-là. Et donc, du coup, on va passer la cryode, vous la voyez. Et la particularité, c'est que quand on a fait la cryobiopsie, alors c'est des cryodes qui font 1,1 mm de diamètre, et en fait on gèle pendant 3 secondes. La particularité, c'est le retrait. C'est un peu pour ceux qui font de la pêche au gros, c'est quand le bouchon il est parti et qu'il faut aller ferrer, bah on ferre. Et on ferre, c'est potentiellement assez brutal hein, en termes de gestes, hein, et ça surprend un peu tout le monde la première fois qu'on le fait, nous le premier, parce que ça, il y a une certaine résistance, et donc du coup on est obligé de donner un bon coup en arrière sur la cryo. Est-ce qu'on a une place pour les biopsies traditionnelles en transbronchique dans l'adénopathie? Et donc aujourd'hui, on peut comparer un petit peu les choses traditionnelles, donc toujours à nouveau la ponction sous scanner, cette fois-ci versus le forceps standard. Et là aussi, sur le lymphomou, sur la sarcoïdose, on a un bénéfice en faveur des biopsies à la pince à biopsie versus les cytoponctions à l'aiguille. Alors, les aiguilles qu'on utilise, à ma connaissance, il n'y en a qu'une, c'est la corde X que je vous ai mise là. Elle a cette petite particularité, c'est que, en fait, cette zone-là fait qu'elle est un peu plus perforante quand on passe la paroi. L'idée est toujours la même, c'est qu'il va falloir choisir l'adénopathie, vérifier la vascularisation, s'assurer ultérieurement que le trou est suffisamment large pour pouvoir faire passer la pince. Et retrouver l'orifice et faire des biopsies. Alors, autant sur les cryos, on va dire qu'on fait trois biopsies, autant sur l'utilisation de la corde X, il va falloir faire 6, 8, 9, 10 biopsies parce que les morceaux sont vraiment très très petits. Alors, je vous ai remis un autre film. Hop. Là, vous voyez en fait sur le juste ici, vous voyez que c'est tout petit le prélèvement par rapport à ce qu'on voyait où on voyait macroscopiquement le prélèvement à la cryobiopsie. Voilà. Donc, ah, c'est déjà passé. Hop là. En fait, on va la voir entrer. On voit la pince s'ouvrir à un moment. Voilà, là, elle s'ouvre et puis on tire. C'est beaucoup moins brutal. Hein, on fait une traction douce, un petit peu comme sur des biopsies standards. Alors, en termes de complications, si on devait comparer maintenant ces deux techniques que sont la cryobiopsie ou la biopsie à la pince, il n'y a pas de grande différence en termes de complications. Il y a peut-être un peu plus de saignement pour la cryobiopsie, mais encore une fois, ce sont aussi des saignements iliaques qui sont peu importants. Et on s'est quand même attaché préalablement de ne pas avoir de vaisseau à côté de la cryobiopsie. Alors, qu'est-ce qui est le mieux entre les deux, entre cryode et biopsie à la pince? Alors, sur un diagnostic global, une rentabilité diagnostique globale, la cryobiopsie fait un peu mieux, probablement à cause de la taille des prélèvements. Maintenant, si on s'intéresse aux différents types de tumeurs, on n'a pas de réelle différence diagnostique, notamment sur le lymphome. Alors, encore une fois, c'est une étude. C'est 23 patients avec, enfin, c'est 23 patients de tumeurs inhabituelles avec simplement 15 lymphomes. Voilà, 11 versus 13. Bon, c'est à peu près équivalent. Si on compare le temps passé à la procédure biopsie à la pince versus cryobiopsie, la cryobiopsie va beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, en pratique, si on devait choisir un petit peu entre les deux, en fait, il va falloir juste réfléchir à ce qu'on a comme suspicion diagnostique préalable. Si on est sur du cancer du poumon et un staging de cancer du poumon, on peut se contenter de conserver la ponction traditionnelle à l'aiguille et pas s'embêter. Si maintenant on est sur des lésions ou des tumeurs plus rares, on peut indifféremment, en fonction de ce qu'on a à disposition, à la fois prendre soit la pince cordée X, soit la cryode. En termes de coût, il n'y a pas de vraie différence de coût du matériel à proprement parler. La cordée X ou la cryode, elles ne sont utilisables qu'une fois et elles coûtent à peu près la même chose. Un petit mot sur l'élastographie. Alors j'en parle. Est-ce que c'est d'actualité? Pas d'actualité. Ça circule encore dans les congrès. Il y avait encore un petit quelque chose à l'ERS là sur l'élastographie couplée à l'ébus. En fait, le principe, c'est quoi? C'est qu'on va mesurer l'élasticité des tissus. Et on prend comme dogme initial que les tumeurs malignes sont plus dures que les lésions bénignes. Et que la compression de quelque chose de dur va entraîner une déformation qui va être peu importante. Et on va mesurer par colorimétrie la déformation engendrée. Colorimétrie, merci, verte, c'est plutôt bénin. Entre le vert et le bleu, c'est entre les deux. Et bleu, c'est plutôt malin. Pas mal de données dans la littérature. Il y avait pas moins de 20 études qui ont évalué tout ça. Bien conduite, 1600 patients, plus de 2000 adénopathies, une sensibilité de 90% et une spécificité pas si mal que ça, de 79%, mais en tout cas pas suffisante aux yeux des experts qui ont fait les recommandations qui sont maintenant assez anciennes en 2012 pour retenir l'intérêt de l'élastographie. Pourquoi? C'est essentiellement à cause de la difficulté d'interprétation interobservateur. On va attaquer la bronchoscopie souple plus traditionnelle et attaquer la bronchoscopie souple, bah, aujourd'hui, c'est attaquer le nodule pulmonaire périphérique. Qu'est-ce qu'on appelle nodule pulmonaire périphérique? C'est un nodule qui est non accessible en bronchoscopie standard, c'est-à-dire qu'il va mesurer jusqu'à 5 mm, parce qu'on considère qu'en dessous, on ne peut pas déterminer le caractère malin ou bénin. Et ce dont on est sûr, c'est qu'il ne faut pas aller les explorer avec une bronchoscopie souple standard. Ça, c'est une certitude. Ça fait partie des recommandations de CHEST de 2012. Et donc, du coup, ben, on est confronté, quand on va avoir ces patients en consultation avec un nodule pulmonaire périphérique isolé, à savoir dans quelle case on va le caser. Est-ce qu'on va le caler dans la case juste surveillance? Est-ce qu'on va vouloir être, en fonction de sa taille, peut-être plus interventionnel et donc du coup on va devoir aller chercher le diagnostic soit par ponction transthoracique sous scanner, soit par des techniques d'endoscopie avancées, soit on va globalement sur des prises en charge enfin, thérapeutiques d'emblée, mais comme le disait Margot, ça va arriver de moins en moins et cette partie-là va être de moins en moins réelle à cause des nouvelles recommandations qui sont sorties. Et donc, ça va être non seulement bousculé par les nouveaux dogmes de la chimiothérapie, mais c'est aussi bousculé par tout ce qui arrive, et ça peut aller très très vite, qui sont les recommandations d'une part européenne sur le dépistage du cancer bronchopulmonaire et la validation l'an dernier par la HAS de programmes pilotes de dépistage en coopération avec l'INCa. Je ne crois pas que le programme soit déjà sorti, mais ça va être incessamment sous peu. Et donc tout ça, ça va nous conduire à avoir une multiplication des consultations, des discussions de procédures à adopter pour l'exploration du nodule périphérique, soit par voie radioguidée, soit par voie endoscopique. Si je prends ce qu'on sait depuis début des années 2000, la ponction sous scanner ou la ponction sous échographie pour les lésions qui sont à contact pariétal, bah, la rentabilité, elle est très bonne. On est de l'ordre de 90% de diagnostic hein, dans chacune des situations, que ce soit soit sous scanner ou soit éco-guidé quand on a de bonnes conditions de réalisation. Et face à ça, on va opposer maintenant ce qui est de l'endoscopie avancée avec plusieurs techniques en développement depuis 20 ans. Je ne vous ai pas mis ce qu'il y a dans le PubMed, mais c'est explosif sur 20 ans. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on multiplie les techniques, on multiplie les procédures, les associations de procédures. Hein. Voilà. En pratique, hein, on va avoir six grands moyens d'exploration. On va avoir l'échographie radiaire, donc c'est le radial IBUS. On va avoir les navigations virtuelles. On va avoir l'électronavigation magnétique, l'arrivée du cone beam, les explorations transparent chimateuses et la robotique qui bouscule beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. En France, hein, alors j'ai pas mis l'électronavigation, mais si je dois rajouter l'électronavigation, il y a cinq centres en France qui sont équipés. Le dernier centre qui s'est équipé, c'est Tours. Hein, et sur les cinq centres qui étaient équipés préalablement, il y en a trois qui ont abandonné la technique. Alors, si on prend ce qu'on sait avec l'échographie radiaire, hein, l'échographie radiaire, la rentabilité, elle est d'environ 70% en termes de diagnostic, à la condition de d'une taille de nodule suffisamment importante, au moins 20 mm, qui est une lésion qui soit centrée sur la branche, donc c'est le signe de la branche, que la distance par rapport à la carène soit jusqu'à 40 mm au maximum, que le nodule soit plutôt malin, et que quand on arrive à la lésion en échographie, on ait une lésion qui soit circonférentielle autour de la sonde d'échographie, comme on peut le voir. On peut évidemment tenter des explorations en échographie radiaire pour des plus petites lésions et plus distales, mais avec une rentabilité qui sera moins importante. Alors, la chose la plus importante, c'est vraiment, vraiment, vraiment le signe de la branche. En gros, s'il n'y en a pas, on peut abandonner la technique. S'il y en a une, on peut y aller. Et si ça jouxte une branche, on peut discuter la procédure. Ce qui va être important, c'est en termes de prélèvement ou de ce qu'on va utiliser, il faut à la fois il faut utiliser l'ensemble du kit de prélèvement. C'est qu'il faut à la fois utiliser la brosse et à la fois utiliser la pince à biopsie. Si on n'utilise pas les deux, la rentabilité diagnostique diminue. Donc c'est extrêmement important. Deuxième partie, c'est la navigation par bronchoscopie virtuelle. Donc, on a un mapping qui est fait en fait avec une bronchoscopie virtuelle qui va permettre en fait de repérer le chemin jusqu'à la lésion. On gagne un petit peu de temps. Alors, ce sont des dispositifs qui coûtent assez cher, mais maintenant, on a potentiellement la possibilité de se faire aider simplement par la reconstruction 3D des scanners et on peut aller voir les radiologues pour qu'ils nous fassent des mappings. Voilà. Le système le moins cher des deux entre l'Archimède et le Synapse, c'est le Synapse, ce d'autant qu'il peut être mutualisé avec d'autres spécialités. Voilà. Donc là, j'ai juste vous montrer un petit nodule lobaire moyen avec un petit signe de la branche. Et cette reconstruction-là, vous allez voir, c'est rigolo, c'est fait avec les radiologues. Et on s'y croirait. Alors bon, on n'est pas dans le bon sens, mais vous allez me croire sur parole. Donc on est dans le, bon, vous reconna, là, vous vous reconnaissez, on a passé la branche principale droite, on est dans le tronc intermédiaire, on va avoir la bifurcation de la croix vers la lobaire moyenne, et puis là, on va aller dans la médiale. Et puis on monte au-dessus, dans la A', et voilà, et on arrive plus loin, comme ça, jusqu'à quatre divisions segmentaires. Et en réalité, bah, on suit ce chemin-là, L'endoscope ne va pas tout à fait jusque-là, mais on voit la division, on peut pousser l'écho radiaire et l'échographie radiaire va montrer l'anomalie qu'on va pouvoir aller biopsier. Ça veut bien. J'ai appris ces données de Samy Lachka. Alors, vous connaissez Samy Lachka, il est à Rouen, c'est monsieur nodule périphérique en France. Samy, il a une énorme expérience et en fait, il a sorti ce papier qui est assez intéressant. C'est qu'au début, il faisait que de l'échographie radiaire quand c'est sorti et puis il a associé cette échographie radiaire aux différentes techniques possibles. D'une part, la bronchoscopie virtuelle et puis les nouveaux guide sheets qui offrent à la fois la pince et la brosse. Et il montre que finalement, sur des lésions qui sont grosso modo, comme on en a parlé, de l'ordre de 2 cm, il va avoir des rentabilités diagnostiques qui vont monter jusqu'à 85%. Voilà. Bon, après, c'est Samy, on ne fait pas tous du 85% de rentabilité diagnostique, ce serait mentir. L'électronavigation magnétique, alors ça c'est vrai que quand on voit ça, c'est assez impressionnant parce que c'est Star Wars. C'est un GPS bronchique qui va permettre de naviguer en onde bronchique après avoir intégré dans le logiciel de navigation le scanner du patient. Et on va avoir une reconstruction tridimensionnelle. On va avoir, quand on va faire la fibroscopie, une sonde qu'on va passer dans l'endoscope. Et cette sonde-là, elle est d'une part orientable et elle est équipée à son extrémité d'un capteur métallique qui va permettre de repérer la sonde et l'endoscope dans le scanner virtuel qui aura été, et la reconstruction qui aura été faite. Alors, je montre ça, je n'ai pas été très malin, je suis allé le chercher sur le site du. Mais juste pour vous montrer que c'est tout de même assez impressionnant la façon dont ça fonctionne. Donc, en fait, on voit qu'on progresse doucement avec l'endoscope et puis on va pousser le guide métallique et vous voyez, ça s'oriente, ça se tourne, on choisit la bonne branche hein, et au final, on va aller sur des lésions qui sont pour la peine par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure avec l'échographie radiaire, plus loin que largement les 4 cm. On sépare habituellement le poumon en 3 zones, une zone centrale, une zone intermédiaire et une zone distale. On dit qu'en général, les zones distales, on les réserve plutôt aux ponctions sous scanner et que globalement, les techniques d'endoscopie virtuelle, on les réserve pour la zone intermédiaire. Mais avec l'électronavigation magnétique, on peut aller au-delà, sous réserve, qu'on arrive à aller passer le guide jusqu'à la bonne position. Voilà. Alors, il y a des données assez robustes sur l'électronavigation. Alors, vous voyez plein de publications depuis le début des années 2000, mais l'étude Navigate, c'est plus de 2000 patients, c'est 35 centres avec une rentabilité diagnostique de 67%. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup par rapport à l'échographie radiaire, sauf qu'on ne parle pas des mêmes nodules. On parle de lésions qui sont beaucoup plus petites. La majorité des lésions qui sont explorées, c'est des lésions qui font entre 8 et 20 mm. Donc on est au-delà de ce que fait l'échographie radiaire, avec une rentabilité diagnostique de près de 70%, c'est pas mal. Alors, on n'est pas encore aux 90% des radiologues, mais on s'en approche doucement. Alors il y a quand même des limites, c'est que le bronchoscope qui doit être utilisé, c'est un bronchoscope thérapeutique, et donc il a un diamètre assez important, qui ne peut pas aller très très loin, et c'est vraiment que le guide qu'on va pousser qui va aller jusqu'à la lésion. La procédure est longue. Alors, ce n'est pas une procédure en temps réel à proprement parler. Et puis, on est un petit peu embêté par les mouvements respiratoires. Et mince, décidément, on se trompe en bouton. Hop. Et en fait, vous voyez que les cycles respiratoires font bouger les sommets de près d'un centimètre et les bases de presque 2 cm. Et ça veut dire que on peut largement rater la lésion. Quand on va penser être juste devant, on sera à 2 cm à côté, ce qui est quand même un peu dommage. Alors, il y a en développement une toute nouvelle plateforme avec une navigation en temps réel. En fait, on couple l'électronavigation magnétique avec une fluoroscopie. Ce sont souvent des arcs 3D qui commencent à sortir, donc quasiment des équivalents de cone beam, qui permettent d'avoir dans le même temps un repérage 3D. Et là, cette fois-ci, on est quasiment, enfin, dans une procédure en temps réel avec une rentabilité diagnostique sur les petites séries qui sont sorties, mais simplement de 82%. Je vous sors pas les études, hein, c'est juste des. Il n'y a pas de comparateur, c'est sans grand intérêt supplémentaire. L'approche transparenchymateuse, alors celle-ci aussi, elle est intéressante. Elle est systématiquement couplée soit à une navigation virtuelle type Archimède, soit à une électronavigation magnétique, plus une fluoroscopie. Donc ça commence à faire du monde dans le bourg et dans la salle. L'idée, c'est de pouvoir faire un mapping précis des vaisseaux et un mapping précis de la lésion. Et donc, du coup, on va y aller un peu sur les mêmes modalités que tout à l'heure. Et la différence, c'est que là, on s'affranchit complètement du signe de la branche. On n'est plus dans la branche. On va aller à la bifurcation la plus proche. On va aller passer une aiguille. On va tunneliser la branche, créer une néobronche, en tout cas une néo-ouverture. Et on va aller ensuite, sous radioguidage, aller pousser une aiguille dans la lésion. Alors, toutes ces techniques-là, elles sont intéressantes, le rendement est intéressant, 80%, peu de complications, mais on a à un moment toujours la perte de vision du moment où on pique. Pour le cone-beam, alors je vous ai mis ça parce que c'est impressionnant, donc le cone-beam, en fait, on va cette fois-ci gagner ce qu'on a perdu préalablement, c'est-à-dire qu'on va avoir la vision pendant tout le moment du geste et on est quasiment sur une procédure en temps réel avec une adaptation systématiquement du cone-beam. Le cone-beam, c'est un scanner, ce qui va permettre de faire des images comme le scanner low-dose et en fait, on va pouvoir adapter avec une reconstruction 3D en permanence, savoir où on est. C'est comme si, enfin, c'est quasiment la scopie. Permanente de ce qui peut être fait, notamment sur une coro. On va voir monter le fibroscope, on va remonter la pince, on va voir sortir l'aiguille. Voilà. La problématique, c'est que on est sur des procédures qui sont extrêmement chères. Il y a de l'irradiation. Si vous avez vu l'installation, c'est monstrueux. Et une logistique, par ailleurs, très compliquée. Par contre, on aura. Tout en point pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on sort l'aiguille, si on est en bonne position, si on n'a pas dépassé le nodule, si on fait une pince à biopsie, ben, si la biopsie se fait au bon endroit. Enfin bon. Donc, intérêt, inconvénient. L'approche robotique, ben, c'est aujourd'hui aux États-Unis, dans quelques pays européens, peut-être demain en France, probablement en tout cas. Et surtout avec. Le Yon, c'est intuitif, c'est un laboratoire que connaissent bien les chirurgiens. Bonne rentabilité diagnostique de l'ordre de 80%. Alors, inconvénient, c'est le coût, c'est quasiment 800 000 euros le robot. La procédure, c'est environ 2 000 euros. Donc, ce n'est pas anodin. Alors, évidemment, on n'est pas en train d'aller pêcher le nodule de 3 cm qui est à 3 cm de la carène. Hein. On est sur des choses beaucoup plus petites. L'intérêt, c'est que on est quasiment sur de la procédure en temps réel. On va avoir un matériel assez fin. L'endoscope fait 2,4 cm, 2,4 mm, avec un canal opérateur quasiment de 2 mm. Donc on peut passer des choses dedans. Inconvénient, on n'a pas d'aspiration. C'est extrêmement souple, le matériel. Par contre, c'est du robotique, c'est-à-dire qu'on ne fait plus, on utilise deux molettes, et c'est les molettes qui dirigent l'endoscope. Le gros intérêt, c'est qu'on est sur quelque chose qui est fixé. C'est-à-dire que, étant donné que c'est le robot qui tient l'endoscope, quand on va faire les ponctions, ça ne bougera jamais. Donc, voilà. À voir en développement. Ces techniques-là, intéressantes pour le diagnostic, par contre, probablement très intéressantes sur d'autres choses qui seront l'avenir, éventuellement des thérapeutiques endobronchiques. Alors, les rentabilités diagnostiques, alors, je vous ai opposé, pas innocemment, les buts, enfin, l'échographie radiaire avec la navigation virtuelle par rapport à la robotique. Maintenant, je mets quand même un gros bémol, même si c'est la même rentabilité qui est inscrite là, on ne va pas chercher les mêmes lésions, quoi. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? C'est parce que on est confronté toujours à ce problème-là, c'est où est-ce qu'on est au moment de la procédure quand on est à l'aveugle par rapport à la lésion. Et est-ce qu'on va avoir du coup des moyens d'aller à l'encontre de tout ça? Alors là aussi, c'est multiplication des pains, multiplication des techniques, multiplication des associations des techniques, mais avec des choses qui commencent un petit peu plus à se construire. Ici, on va avoir l'apport de l'endomicroscopie confocale laser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette technique-là. Ça a été développé. C'est en gros, c'est un microscope optique avec un jeu de miroir, avec une fibre laser qui va permettre d'illuminer tout ça, qui va apporter une image microscopique qu'on verra à l'écran. Et on va avoir des images qui vont montrer soit de la bronche normale. Pardon, soit de l'alvéole normale, soit de la bronche normale, soit ici du granulome ou aussi des lésions néoplasiques. Ces techniques-là, elles vont être associées à toutes les techniques avec ponction à l'aiguille ou guide sheet pour s'assurer qu'au moment du prélèvement, on soit bien dans les temps. On soit bien dans la lésion, pardon. Je vous montre juste, alors ça c'est un film que j'ai fait à l'ERS, là. C'est assez impressionnant. Donc, en fait, on plonge l'aiguille, on sort de l'aiguille, à travers l'aiguille, on passe la fibre laser et on va avoir une vision directe qui va confirmer qu'on est vraiment bien en lien dans la lésion. Donc très intéressant. Et pour la peine, ça va faire l'objet d'un essai thérapeutique qui s'appelle Clever avec plus de 200 patients prévus et randomisés, soit procédure standard, soit procédure plus endomicroscopie confocale. L'Iriscope, ça c'est en développement, c'est une boîte belge qui propose en fait une mini-sonde de vidéo endoscope. Donc c'est tout petit, ça fait 1,3 mm et l'image est complètement bluffante. On l'a depuis maintenant un mois là sur Brest en essai. C'est impressionnant. Donc on fait un repérage standard avec l'échographie radiaire, on se met en position, et puis une fois qu'on est en position, à travers le guide sheet de l'échographie radiaire qu'on voit là, on va pousser, et vous voyez là on a une lésion hop, ici blanchâtre, qui est une lésion néoplasique. Et donc du coup on sait qu'on est en place à la sortie du guide sheet. Et on va pousser soit la pince soit la brosse, soit la pince, soit la cryode pour aller faire le prélèvement. C'est assez impressionnant. Alors, Samy Lashkar, encore lui, a fait une publication là-dessus. Il a fait 23 patients, simplement pour évaluer la technique. Et en fait, sur 14 patients avec des lésions invasive, il va avoir 13 cancers, un aspergillome. Sur des lésions bénignes avec de la sténose, il va avoir du cancer, du carcinoïde ou de l'infection. Et puis sur 6 autres lésions où il ne voyait pas grand-chose dans la bronche avec un aspect endobronchique normal ici, il aura 3 sans diagnostic et 3 avec de l'infection. Voilà. Alors, je n'ai pas le film là, mais Samy nous présentait un peu ses travaux. Et en fait, c'est très surprenant sur l'histoire infectieuse. On voit exactement comme quand on est dans une bronche, on va avoir les sécrétions de muqueuse qui viennent à fleur sur les éperons. On va voir la même chose. Est-ce qu'on va avoir moyen d'augmenter encore la rentabilité diagnostique après les systèmes de visualisation, les systèmes de prélèvement et encore une fois la cryobiopsie? Alors, cryobiopsie, ça a l'air d'être assez intéressant, avec des rentabilités qui sont d'autant plus intéressantes que les lésions sont excentrées par rapport à la branche, mais il faut quand même qu'il y ait un contact, et que les lésions soient inférieures à 2 cm. Donc, intéressant. Je vous montre comment ça fonctionne. Le problème, c'est toujours potentiellement le saignement. Donc, on a deux façons de le faire. En tout cas, moi, ce que je recommande, c'est plutôt l'utilisation du bronchoscope rigide pour pouvoir passer une sonde de Fogarty, parce que quand on a retiré de façon un peu violente lésion, enfin la cryode, on peut avoir un peu de saignement et on est content d'avoir gonflé la sonde de Fogarty. En général, à distance, ça se règle assez facilement et ce sont des saignements qui sont non sévères, au pire modérés. On va globalement vers une combinaison des techniques et en fait, plus le temps passe, plus on voit que la rentabilité des diagnostics, elle est augmentée, mais elle est augmentée par la combinaison des techniques avec des rentabilités qui vont monter jusqu'à 80-85%. Maintenant, comme vous l'avez vu, je vous ai montré plein plein de choses. Il n'y a pas grand-chose qui soit bien standardisé à tel point que la société américaine de la GRCCM a proposé des algorithmes sur la réalisation des études en demandant à ce qu'on essaye de standardiser au mieux les choses. C'est un petit peu ce qui est fait là actuellement. Il y a eu une étude qui va sortir très bientôt qui compare la bronchoscopie avancée aux ponctions sous scanner. Et les résultats sont plutôt assez satisfaisants. 255 patients inclus, chacun randomisé dans deux groupes. C'est plutôt des tiers périphériques de lésions dans 88% des cas. Les nodules font en moyenne 15 mm. C'était une étude de non-infériorité et elle est non-inférieure avec un rendement diagnostique de 76% dans les deux groupes, mais 6% de complications en bronchoscopie, 31% en ponction sous scanner. Du coup, on propose aujourd'hui, dans l'attente de plus, on propose un petit peu un arbre décisionnaire où globalement, pour les lésions qui seront dans les deux tiers externes et plutôt dans le tiers moyen, on propose systématiquement les techniques de navigation virtuelle avec l'Airbus et plus en fonction de comment sont équipés les centres. Pour les lésions très distales, bon, c'est plus de la discussion au cas par cas, opérateur dépendant. Et l'avenir, ben, l'avenir, c'est probablement la mise en place d'essais pour pouvoir positionner les différentes techniques, surtout par rapport à la localisation des lésions, leur taille, la présence de la lacune de bronche ou de vaisseau à proximité. Et peut-être un changement de paradigme si à un moment ou à un autre, on arrive à une rentabilité équivalente à la ponction sous scanner. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Désolé, j'étais un peu long.
Est-ce que vous avez des questions?
Oui, on peut. En fait, les PC, ça n'empêche pas la réalisation de PCR. Et la mise en culture, on peut, mais le souci, c'est qu'on va avoir une perte un petit peu de matériel. Mais on peut. Après, là où on peut faire de la cryo, on peut faire de la biopsie. Donc, en pratique. Si on doit, par exemple, sur la question, c'est pour les adénopathies médiastinales, hein, par exemple, sur les adénopathies médiastinales, on va aller faire la ponction à l'aiguille, on envoie un pot en bactériaux, en tout ce qu'on veut, et voilà. Et éventuellement, pour les choses plus particulières, bah, on fait une cryo qu'on va réserver à l'anapath pour qu'on ait les PCR dessus si jamais c'était nécessaire. Il faut juste le préciser préalablement, mais. En fait, aujourd'hui, sur des choses comme ça, on va aller faire la ponction à l'aiguille et ensuite soit la biopsie à la pince, soit la cryo derrière en fonction. Aujourd'hui, on a la cryo, on a les forceps et pour les explorations de nodules périphériques, alors on a en prêt pour l'instant l'iriscope, mais j'aimerais bien qu'on le garde derrière. Et puis l'échographie radiaire. Voilà.
Oui, Nicolas.
Ouais, c'est assez surprenant parce que alors on est évidemment limité par le cône de vision, mais en fait, on peut aller balader l'iriscope un peu plus loin. Et si on se rend compte que la lésion, elle est un peu plus loin. Bah, on va pouvoir pousser le guide sheet derrière pour se mettre en face ou éventuellement reculer un petit peu. Par contre, on n'aura pas d'orientation possible comme on peut le faire dans l'électronavigation. Mais on peut positionner le guide sheet, pour peu qu'on ait l'impression qu'on ne soit pas forcément très loin. Mais l'iriscope, il arrive, enfin, moi aujourd'hui, je l'utilise plus après l'échographie radiaire. C'est-à-dire que je fais l'écho radiaire, je regarde où je suis positionné. Une fois que j'ai fait mon échographie radiaire, j'enlève la sonde d'échographie, je pousse l'iriscope et je vérifie ma position. Et si je suis bien, bon, ben voilà. Alors après, on pourrait encore rajouter une scopie pour voilà, pour positionner les choses. Alors j'avoue que je suis feignant, je ne le fais pas parce que ça met un temps fou, quoi, en fait. Et que là où la technique prend 20 minutes, ou elle prend une demi-heure, trois quarts d'heure, autrement. Non, on peut faire plus de 100 procédures avec l'iriscope. Oui, mais en fait, on voit la lésion, mais il faut pouvoir l'avoir repérée préalablement. C'est-à-dire que quand on va aller pousser, on ne peut pas pousser les deux en même temps. C'est soit, enfin, on peut pousser un guide sheet avec l'iriscope dedans, ça c'est tout à fait possible, mais on n'aura pas forcément le. Enfin, on ne sera pas aussi rapide, parce que l'intérêt de l'échographie, c'est que l'échographie, on peut pousser la sonde d'écho et on va très vite, en fait. Et dès qu'on voit la lésion, on s'arrête. Alors que là, avec l'iriscope, on est obligé d'aller tout doucement. Donc moi, je le recommanderais plutôt en aide à l'écho radiaire.
Je vous propose de poursuivre en bas, parce qu'on a pris pas mal de retard. Merci beaucoup, hein.